Bon jeudi à tous, il est 13h. Et merci à vous d'avoir choisi Europe 1.
Midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Nous sommes au Salon de l'agriculture et vous la connaissez, ma mission c'est toujours la même chaque jour, vous faire découvrir des hommes et des femmes qui essaient de faire bouger les lignes ici en France. Aujourd'hui, gros plan sur la viande et sur sa traçabilité et vous allez voir qu'il y a pour nous consommateurs de nombreux moyens aujourd'hui pour savoir ce qui se cache derrière notre steak haché. Il est né dans le Poitou en 1895, Soignon est aujourd'hui la marque de fromage de chèvre la plus vendu en France et c'est l'entreprise qui va bien, merci. Et puis une paille en paille pour remplacer celle en plastique, c'est la solution pour se préparer à l'avenir, à l'interdiction qui arrive dès 2020. C'est ça la France qui bouge et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
39-21, venez, hein, comme chaque jour, vous avez la parole pour nous dire comment, tiens, par exemple, vous choisissez votre viande, si vous faites confiance à votre boucher, si vous achetez en grande surface, si vous regardez aussi, pourquoi pas, Marlène, les étiquettes en détail et surtout, si vous avez confiance.
Et oui, 39-21, 50 centimes la minute, vous nous laissez un petit message et bien sûr, on prendra le temps de vous rappeler. Puis il y a aussi les réseaux sociaux, hashtag Europe 1 sur Twitter, à tout moment, chacun, chacune, vous pouvez publier un petit commentaire.
Eh oui, car la traçabilité est devenue, après, c'est vrai, les scandales à répétition, notamment celui de la viande de cheval récemment, mais aussi celui plutôt de la vache folle, un vrai enjeu pour la filière. Et vous allez voir qu'elle en a bien conscience, justement, cette filière. Pour accueillir nos invités, Benjamin Lévesque est à mes côtés. Bonjour Benjamin.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Et le grand retour de Nicolas Chabanne, le fondateur de C'est qui le patron. Salut Nicolas.
Bonjour Raphaël.
C'est un sujet que vous connaissez bien, hein, la traçabilité, on est au cœur du débat.
Très impatient là, d'entendre le débat.
Alors pour savoir d'où vient la viande, le plus simple c'est encore de savoir à qui on l'achète, vous serez probablement d'accord avec moi. C'est ce que font de plus en plus de consommateurs avec ce qu'on appelle la vente directe. Bonjour Melchior de Warren.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous, vous êtes le cofondateur des Colis du Boucher. Alors racontez-moi comment vous est venue l'idée de distribuer la viande, finalement comme on fait pour les paniers de légumes.
Exactement, bah, c'était il y a bientôt 10 ans déjà. Alors moi je suis fils d'agriculteur, je suis ingénieur agronome, j'ai grandi dans un milieu d'éleveurs et d'agriculteurs.
Dans le Berry, c'est ça?
Dans le Berry, exactement, entre Berry et Auvergne.
Donc habitué à manger des produits sains.
Exactement, et de voir autour de moi des éleveurs. 2010, je suis à Paris, il y a des scandales régulièrement alimentaires et la viande est touchée. Je me dis, c'est quand même pas possible de ne pas savoir ce qu'on mange et de ne pas savoir ce qu'il y a derrière un steak quand on va l'acheter chez le boucher ou dans le commerce traditionnel.
Et donc, vous décidez de faire changer les choses? Comment vous vous y prenez? Vous allez voir des copains éleveurs?
C'est un besoin purement égoïste. Je vais voir des copains éleveurs, je vais voir des gens que je connais et je leur dis, voilà, je voudrais acheter de la viande pour mon entourage, pour moi. On voudrait être rassuré et connaître la provenance.
Début, il y a combien de producteurs qui marchent avec vous dans l'aventure?
Quelques-uns, parce que c'est vrai que quand on part de rien, on ne peut pas promettre à grand monde quelque chose. Donc on démarre avec quelques éleveurs et de fil en aiguille, boule de neige, ça prend de l'ampleur. On crée un site internet, les gens viennent nous rejoindre et l'histoire continue.
Oui, parce que vous avez dû vous adapter tellement la demande était forte.
On reste quand même des petits acteurs.
Oui, mais
c'était
dans le milieu, une quarantaine de kilos. Voilà. On n'est plus du tout à une quarantaine
on
de kilos aujourd'hui.
On n'est plus du tout dans ces ordres-là, mais c'est vrai qu'on est parti de zéro. Donc, on a augmenté.
Ça veut dire que je commande sur les colis du boucher. Je vais être livré quel que soit l'endroit en France où je me trouve.
Alors, effectivement, aujourd'hui, on est capable de livrer partout en France. Ce n'était pas le cas au démarrage, bien évidemment. Mais avec la possibilité de livrer en froid dans toute la France, un client choisit son morceau sur Internet, remplit son panier en toute liberté. Il n'y a aucun engagement. On choisit son label, parce qu'on travaille avec des labels bio et des labels rouges. Donc, de là, la commande, on l'envoie en Auvergne, c'est découpé là-bas et acheminé dans toute la France en 48 heures au minimum.
Ça veut dire que je sais qui est l'éleveur, je sais tout, dès que je suis connecté?
Non. Ça, parce qu'en fait, on peut réserver un colis pour dans 3 semaines ou dans un mois ou dans 3 jours. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire dans 3 semaines quel éleveur va nous donner sa bête. En revanche, après coup, effectivement, quand vous êtes livré, là, avec la traçabilité, en 5 minutes, on peut savoir de quel élevage vient votre morceau de hampe.
Oui, vous parlez de l'abattoir, hein, c'est important, parce que cet abattoir, justement, il est à proximité des éleveurs avec lesquels vous travaillez. La viande, il faut le savoir, c'est important pour nous, consommateurs, elle ne fait pas plus de 60 km/h entre le pré et la découpe.
Alors, pas 60 km/h.
60 km, pardon.
Si on irait un peu vite.
Je commence à être un peu fatiguée.
Voilà, on travaille en local. La viande, il faut...
J'ai rien bu, hein, je précise.
C'est le quatrième jour.
Oui, c'est le quatrième jour.
Alors, les camions roulent à 60 km/h, effectivement, je pense, sur la route, mais ce sont des petits trajets.
Mais le rayon...
Un rayon de 60 à 80 km, il faut travailler en local, il faut arrêter de faire venir des viandes de l'autre bout du monde, ça n'a plus de sens. Maintenant, il faut redynamiser les territoires et faire venir en courte distance les animaux, quoi.
Que dit notre coach de cette initiative ?
C'est une très bonne idée que vous avez, Raphaël. Il faudrait que les camions ne roulent pas plus vite. Ça polluerait beaucoup moins. Enfin,
à chaque fois, vous avez des idées.
Génial. Donc, en tout cas, il y a 10 ans, pas mal d'acteurs sont arrivés, comme vous, là, sur ce principe de livraison de produits. Il y en a qui sont en moins bonne santé. Qu'est-ce qui fait que ça marche pour vous et que d'autres ont un peu plus de difficultés à se connecter aux consommateurs directement ?
Alors la vente sur Internet effectivement de viande, il y a 10 ans, c'était aberrant. C'est vrai qu'en France, on veut voir la viande avant de l'acheter. Donc c'était un gros frein. Après, ce qui nous a un peu tiré et sorti du lot, c'est le fait qu'on travaille de la viande française sous des marges de qualité bio et label rouge. Clairement, le consommateur aujourd'hui, il veut être rassuré par la provenance et la manière dont les animaux sont traités et la manière dont les viandes sont faites.
C'était clairement une réponse aux différents scandales, hein, vous l'avez dit. Justement, ces scandales, il y en a eu beaucoup et c'est vrai que ça a titillé le consommateur, Benjamin.
Oui, ça a commencé par la vache folle, détectée pour la première fois en 86 au Royaume-Uni. Au total, il y avait eu près de 200 000 vaches touchées par la maladie. On se souvient aussi des contaminations à la dioxine en 99 en Belgique. Là encore, près de 20 tonnes de cuisses de poulet avaient été retirées de la commercialisation. En 2003, c'est l'épidémie de grippe aviaire qui touche alors d'abord l'Asie, puis le reste de la planète. Là encore, des millions d'animaux d'élevage abattus. Il y avait aussi eu 240 morts. Il y a eu bien sûr l'affaire Spanghero, hein, les steaks hachés certifiés pur bœuf qui contenaient de la viande de cheval. Et puis enfin, plus récemment, un abattoir en Pologne qui a expédié en Europe plusieurs centaines de kilos de viande avariée.
Melker de Warren, vous êtes deux aujourd'hui, mais vous faites travailler énormément de fermes. Est-ce que vous avez besoin de vous développer ? Comment est-ce que vous voyez l'avenir ?
Je ne suis pas un acharné du développement. Je veux que les choses se passent de manière juste et simple. La meilleure traçabilité, à mon sens, c'est la plus courte et la plus simple. Je veux, on est peu de salariés au sein de la société parce que je préfère donner du travail à des partenaires dont l'expertise est là plutôt que d'internaliser des expertises que je ne maîtriserai pas complètement. Donc c'est pour ça que nous on est un facilitateur et un échangeur d'informations entre un besoin d'une famille et ce que peut faire un éleveur en local.
Traçabilité, Benjamin, on va peut-être redire, c'est un mot assez récent finalement. Là aujourd'hui on l'emploie à tout bout de champ, mais ça fait quoi ? Combien de temps qu'il est ?
Qui a presque mon âge. Il faut savoir que il a longtemps été utilisé par les professionnels du secteur, mais c'est en 1996 qu'il est apparu dans le dictionnaire français après la crise de la vache folle.
On reste ensemble et on continue justement à parler traçabilité de la viande aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h09.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et cette traçabilité, eh bien, c'est à tous les maillons de la chaîne qu'elle doit se faire possible quand on a la main sur toutes les étapes du contrôle, comme pour Sicarev, où les producteurs élèvent, abattent et découpent. A tout de suite.
Jusqu'à 14h, vous écoutez La France bouge et on retrouve Raphaël Duchemin depuis le Salon de l'agriculture pour parler de la traçabilité de la viande. Faut-il avoir confiance en nos bouchers, j'allais dire. Vous, faites-vous confiance à votre boucher ? Êtes-vous consommateur ? La provenance de la viande que vous consommez a-t-elle une importance pour vous ? Et dites-nous comment ça se manifeste. Au 3921, c'est le standard d'Europe 1, ou encore sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Et pour que la confiance dont vous parliez, Marlène, existe, il faut, c'est vrai, une totale transparence. Et dans les affaires de scandales qui ont refroidi les Français, c'est cette transparence qui à un moment a fait défaut. Or, quand on est à la fois dans les champs, sur l'exploitation et aussi à l'abattoir, forcément le contrôle est là à tous les étages. Bonjour Philippe Dumas.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes vous-même éleveur et aussi président du conseil d'administration du groupe Sicarev. Vous avez 70 vaches, je crois, mais vous êtes à la tête d'un groupe coopératif qui rassemble 10 000 adhérents. C'est en 62 qu'il a été créé, ce groupe Sicarev ?
Alors, le groupe Sicarev a été créé en 62 et a évolué au fil des années, pour répondre à l'objet qui est celui d'un groupe coopératif comme le nôtre, valoriser la production de nos adhérents. Donc, il a fallu... On a eu de plus en plus d'adhérents. On a dû avoir aussi de plus en plus d'outils, d'ateliers, de transformation.
Justement, pour que les éleveurs bovins, porcins, ovins aient une même ligne de conduite, c'était ça l'idée ?
C'est ça l'idée. Et l'idée, valoriser la production de ces producteurs et de ces adhérents-là.
Alors, cette coopérative, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire clairement qu'elle est un gage de transparence ? Parce que vous avez vos abattoirs, vos sites de découpe, 7 abattoirs, je crois, qui sont gérés par vous, par les adhérents.
Voilà, c'est 7 abattoirs qui sont gérés par l'ensemble du groupe. Alors, par nos équipes de salariés, évidemment, ce n'est pas les producteurs qui sont au quotidien dans les abattoirs, mais c'est les abattoirs sont gérés par le groupe. Et le gage de traçabilité, et ça doit être, et de transparence, c'est vrai que c'est la traçabilité est un élément important, mais derrière la traçabilité, c'est la transparence, c'est avoir l'ensemble de l'information, transmettre cette information, qu'elle soit incontestable.
Ça veut dire qu'un animal élevé chez vous, par exemple, ou chez un des producteurs du groupe Sicarev, je peux en retrouver n'importe quel morceau grâce à des numéros de lot ?
Alors derrière les numéros de lot, on va retrouver l'animal ou les animaux, parce que quand on parle de lot, il peut y avoir plusieurs animaux pour constituer ce lot. Et c'est vrai que cette traçabilité va démarrer dès l'élevage, où on va identifier l'animal avec un numéro dans une base de données nationale. Et cet animal, il a son passeport qui va le suivre tout au long de sa vie. Et la concordance jusqu'à la barquette de viande.
Et moi, j'ai été assez frappée parce que c'est assez tardif, finalement, tout ce traçage. Si on regarde, ça date des années 2000.
Alors, la traçabilité, on a parlé, les avancées se font toujours sur des moments difficiles, des scandales. Et c'est vrai que la crise de la vache folle, a été expliqué, un moment difficile dans la filière viande.
Il y a eu un coup d'accélérateur derrière.
Et qui a fait que la filière viande a décidé de mettre un coup d'accélérateur très fort et être vraiment précurseur en matière de traçabilité pour rassurer le consommateur, pour expliquer... comment on trace la viande tout au long de la filière. Et ça a été d'ailleurs plutôt un élément favorable parce que c'est ce qui a fait que la filière viande a plutôt bien rebondi à cette crise-là, qui a été une crise très grave. Et on a su rebondir en expliquant comment on traçait la viande.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que depuis la mise en œuvre de cette traçabilité, au départ, les choses ont encore évolué parce qu'au fur et à mesure, vous rajoutez des informations. Vous dites, le système, à ce stade-là, il est encore perfectible.
Tous les systèmes peuvent s'améliorer, se perfectionner. On a vraiment et on doit répondre aux attentes des consommateurs, des citoyens. Aujourd'hui, dans les attentes et la traçabilité, n'est même plus, quelque chose. C'est réclamé, mais ça va de soi. Aujourd'hui, on fait face d'ailleurs à de nouvelles attentes de ces consommateurs-là, et on doit travailler l'évolution dans nos systèmes de traçabilité, d'exploitation, d'explication du métier, à répondre à ces attentes consommateurs. Même si la traçabilité est indue.
Mais on sait quoi, justement, dans cette traçabilité ? Je sais, par exemple, ce que l'animal a mangé. Est-ce que je sais si vous avez utilisé des médicaments ?
Alors, on va retrouver toutes ces informations par des cahiers des charges. Ça veut dire que sur mon exploitation, je suis audité par un technicien de ma coopérative au moins une fois par an qui vient contrôler. Et chaque cahier des charges, il y a des aliments référencés. On vérifie l'utilisation des aliments. La partie sanitaire, utilisation d'antibiotiques, tout est enregistré, noté. Ça fait l'objet d'ordonnances, évidemment. C'est enregistré dans un carnet sanitaire. Et tout ça est bien sûr disponible pour tout le monde.
Nicolas Chaban, le coach.
Alors, vous savez, j'essaie de pas en parler à chaque fois, mais là, je vais parler de ce qu'il patron. Philippe Dumas,
qui est vous en parlez à chaque
éleveur.
Fois.
Éleveur,
c'est pas grave.
C'est vrai. Mais Philippe Dumas, qui est éleveur, et fait partie de ce groupe d'éleveurs qui a rencontré les consommateurs dans le cadre de ce qu'il patron. Et finalement, pour nous rassurer, nous, sur l'histoire de ce steak haché, qui est devenu un steak haché là, présent maintenant dans les rayons, on a fixé, nous, les conditions. Ensemble. Alors, on a par exemple décidé que c'était obligatoirement né, élevé en France. que ça soutenait obligatoirement le producteur avec un prix qui le rémunérait au juste prix. Mmh. On lui a demandé. On a demandé que ce soit du pâturage au moins 6 mois, qu'il y ait également un bien-être animal qui soit respecté. Et une fois qu'on a fixé le cahier des charges, nous consommateurs, on a beaucoup moins de questions à se poser. Et qu'est-ce qu'on a fait en deuxième temps? On est allé chez un éleveur, Philippe, je ne sais pas comment s'appelait l'éleveur où on est allé.
Chez Frédéric.
Chez Frédéric, avec des sociétaires, et on s'est rendu compte par nous-mêmes d'un dernier point très important. Je joue mon joker là et je ne pourrai plus parler de l'émission. Les jeunes éleveurs sont dans une situation dramatique. Il faut le dire, on parle beaucoup du lait. Les jeunes éleveurs de viande en France, c'est un drame total. C'est un métier extraordinaire. Il y a une qualité de viande, c'est reconnu au plan mondial et européen. Et je crois qu'il faut absolument qu'on paie au juste prix cette viande qui est faite dans des conditions particulièrement qualitatives, parce que sinon on aura beaucoup moins d'occasions de manger de la bonne viande.
Mais alors moi j'ai une question justement par rapport à ce que vient de dire Nicolas. Lui il sait que la viande qu'il a fabriquée, elle vient de chez vous. Mais moi le consommateur, comment je fais si je veux être certaine que j'ai une viande qui a été élevée par vous parce qu'il y a tous ces gages de qualité derrière? Comment je fais pour le retrouver sur l'étiquette? Est-ce qu'il y a un moyen?
Alors sur l'étiquette, je pense qu'aujourd'hui, alors chez moi personnellement, ça, on sait que le système, le mode d'élevage à la française, moi dans mon élevage, je ne vends pas de la viande régulièrement. Donc c'est pour ça aussi que nous, on s'est groupé dans un certain nombre d'éleveurs. On répond à des cahiers des charges pour que l'ensemble de la production se ressemble et que tous produisent dans les mêmes conditions. Et vraiment, la volonté, c'est de donner ces informations-là pour que le consommateur retrouve. Et dans les informations sur l'étiquette, je pense que ça doit faire aussi l'objet, et c'est l'intérêt aussi des missions comme ça, c'est de dire que la traçabilité, elle existe. Elle est sur l'étiquette du produit viande. Vous avez en viande bovine et l'interprofession, l'ensemble de la filière s'est beaucoup battu pour qu'on puisse étiqueter le pays de naissance, le lieu d'abattage, le lieu de transformation. Il y a le tampon ovale qui peut paraître un peu des chiffres barbares, mais aujourd'hui, à l'heure de la technologie et du smartphone, vous tapez ce numéro-là. Ben vous avez, puis ça commence par le numéro du département, ça permet de réviser les départements en même
exactement.
Temps. Ça permet de savoir où cette viande a été transformée, où elle a été abattue. Toutes ces informations-là,
elles sont là, elles existent.
Et il faut qu'elles servent aux consommateurs. Et c'est
il faut
vrai
que nous, on sache qu'elles sont là et qu'on sache les déchiffrer. On reste ensemble, on continue à parler traçabilité sur Europe 1.
Il est 13h19.
Europe 1. Raphaël Duchemin.
Et si on pouvait connaître, nous, consommateurs, justement, tiens, toutes les étapes de la viande avant qu'elle n'arrive dans notre assiette, c'est ce que propose aussi Christelle Shane. À tout de suite sur Europe 1.
Il est 13h21, la France bouge, est au Salon de l'Agriculture toute cette semaine sur Europe 1 et on vous retrouve, Raphaël Duchemin, avec vos invités pour échanger sur la traçabilité de la viande.
Oui, quand vous mangez une escalope, vous savez juste où vous l'avez achetée, mais avant, pas forcément par où le morceau a transité, qui a élevé la bête, où elle a été découpée quand vous allez chez votre boucher. C'est vrai que c'est compliqué à déterminer, en tout cas, on n'a pas toujours les codes pour arriver à lire les informations qui sont parfois à notre disposition. Or aujourd'hui, les consommateurs ont besoin de savoir ce qu'ils ont réellement dans l'assiette. Bonjour Sylvain Cariot.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le président de Crystal Chain. Oui. Alors Crystal Chain, on va essayer d'être clair, c'est une blockchain de la viande. Comment est-ce que vous est venue justement l'idée de vous intéresser à cette filière en particulier? Parce qu'au départ, vous n'étiez pas du tout là-dedans.
Non. Alors c'est même plus large que la filière de la viande, parce que nous, on est capable de tracer n'importe quel type d'aliment et on travaille même dans le secteur de la mode et du luxe. L'idée, on a fait le
mais
même
au départ, c'était une blockchain pour le monde de la finance, hein, si mes informations sont bonnes.
Pas tout à fait. En fait, dans la blockchain, il y a deux usages. Il y a l'usage financier, on n'est pas dedans. Et il y a l'usage de traçabilité et on est vraiment là-dedans. À l'époque, on avait fait le même constat que vous, c'est-à-dire que le consommateur demandait plus d'informations sur ce qu'il mangeait. Il voulait être rassuré, il voulait manger bio, il voulait savoir d'où ça venait. Et le problème, c'est qu'il y avait une méfiance qui s'était installée au fil des différentes crises. Alors avec mes associés, il y a 3 ans, on connaissait bien le secteur de la grande distribution et de la grande consommation. On trouvait ça dommage parce qu'il y a plein de gens qui travaillent très bien, vous en êtes la preuve, qui sont fiers de ce qu'ils font, qui respectent les règles, mais ça, c'est pas bien. Et puis, il suffit d'un incident quelque part pour mettre toute la filière à plat. Donc on a décidé de mettre en place, de développer une plateforme de traçabilité qui est effectivement basée sur la blockchain. En petite parenthèse, la blockchain, c'est une technologie informatique
oui.
dont on parle assez souvent. Peut-être que vous en avez parlé sur Europe 1.
Évidemment.
Voilà. Alors,
Alors, ça marche comment, cette blockchain, justement? On scanne le produit, on voit la tête de l'éleveur.
Alors, ça permet d'enregistrer chaque étape dans un système informatique, chaque étape de la production, de telle sorte qu'on ne peut pas modifier l'information. C'est comme si vous graviez dans le marbre chaque étape. Et donc, sur une filière bovine, par exemple, ou d'autres, n'importe quel type de filière, chaque acteur vient enregistrer sur notre plateforme ce qu'il fait, les contrôles qui ont été faits, comment le produit a été transformé, est-ce que l'animal a mangé. Et à la fin, au bout du compte, on est capable de montrer au consommateur, en temps réel, le produit qu'il a acheté, qu'est-ce qu'il y a dedans, comment il a été produit et d'où il vient. Concrètement, on met un QR code sur le produit. Un QR code, c'est une sorte de code barre avec des petits carrés. Ça se diffuse de plus en plus. Vous scannez avec votre smartphone et là, on vous remonte toute l'information sur votre produit.
Et il y a toutes les étapes.
Toutes les étapes. Toutes celles. En fait, ce qui est important, c'est de partir de qu'est-ce que veut le consommateur, sur quoi il a besoin d'être assuré. Et nous, on va chercher les preuves de ça.
Si. Alors, moi, j'ai une question. Une fois que le morceau est dans le paquet et qu'il y a le QR code dessus, oui. Qu'est-ce qui me dit que le morceau qui est dedans est bien celui qui correspond au QR code?
Alors, Crystal Chain, on a parmi nos actionnaires la société Mérieux Nutriscience, qui est une filiale du groupe Mérieux. Et cette société Mérieux Nutriscience est un spécialiste de l'analyse de conformité d'aliments et l'analyse de processus. Ils sont présents dans 20 pays, c'est une des références dans le domaine. D'ailleurs, petite parenthèse, la France, dans tout ce qui est alimentaire, a beaucoup de références mondiales dans le domaine en termes de sécurité.
Et oui, on ne le dit pas assez, mais c'est vrai qu'on est quasiment leader en matière de sécurité sanitaire et alimentaire.
Ben, comme vous l'avez dit tout à l'heure, tous les scandales nous ont fait progresser. Et là où on était peut-être à la traîne il y a 20 ans, maintenant on est parmi les leaders et il y a des normes européennes qui sont basées sur ce qui se fait en France. Et donc, cette société est capable, Mérieux Nutriscience, d'aller sur le terrain et de voir comment ça se passe et de garantir que ce qui est inscrit dans la blockchain et le QR code correspond bien au lot. Donc on va auditer tous les process qui concourent à écrire ce QR code.
Nicolas.
Bon, vous avez réussi un exploit, expliquer en 20 secondes ce qu'était la blockchain, ce qui est absolument impossible. Dites-nous quand même qui signale l'info de cette blockchain. Est-ce que c'est une série d'acteurs? Le principe, c'est de croiser l'information pour qu'il y ait à un instant T, donc l'information. Finalement, j'ai réussi à répondre à la question. En ce moment, il se passe une chose importante. Vous avez toutes les informations dont on a besoin en tant que consommateur qui existent. Évidemment, bon, c'est une réalité par nature. On sait aujourd'hui aller la rechercher. On estime à 10% une information difficile à tracer, mais tout le reste est traçable. Il y a quand même un peu des zones d'ombre qui persistent. J'ai eu une belle réunion hier qui me l'a prouvé.
Donc, quoi les zones d'ombre?
Non, alors, si vous voulez, comme de toute manière, la blockchain aide beaucoup. Vous avez malgré tout ce qu'on appelle c'est du push. Il y a quelqu'un qui vient amener l'information sur les applis comme Yuka. Il faut savoir que c'est le directeur marketing du produit qui est capable de renseigner. C'est pas des
donc
experts.
Donc vous êtes en train de me dire qu'il faut une sorte d'indépendance, c'est ça?
Il faut une vraie indépendance. Il faut croiser. La blockchain est fantastique. Il faut qu'à un moment donné, quelqu'un qui a une info le montre à une série de personnes et ne puisse plus le changer. C'est là où on grave dans le marbre l'information. Exactement. Et ensuite, au niveau du consommateur, il ne faut pas se priver d'aller vérifier soi-même, côté consommateur, alors, ce qu'on fait nous depuis quelques mois maintenant.
Alors que dit Sylvain Carillon?
Oui, vous avez raison. En fait, pour l'instant, on travaille avec les acteurs de la filière et ceux qui les auditent. Donc ça, c'est une forme de garantie. Nous, on vient vérifier que, par exemple, si un produit doit être vérifié par un vétérinaire avant de sortir, que chaque produit a bien l'estampille du vétérinaire, que le vétérinaire a bien signé dans notre application qu'il a vérifié ce produit. Donc il y a une forme d'engagement quand même. C'est-à-dire que chacun signe. Vous n'allez pas signer n'importe quoi. Donc vous vous engagez, en plus, ça reste. Nous, on va vérifier la cohérence. C'est-à-dire que si un abattoir dit qu'il vend une tonne de viande certifiée, bio par exemple, il a acheté l'équivalent en bête avant.
Qui va vérifier?
C'est nous qui vérifions.
L'équipe, donc.
Voilà, et on remonte des alertes. Et l'information, elle est partagée entre tous les acteurs. Alors, effectivement, vous avez raison. Et on est en train de progresser là-dessus. On est en train de regarder comment faire venir d'autres acteurs, ça peut être des associations de consommateurs ou des pouvoirs publics, pour vérifier ce qui se passe. De toute façon, toutes les filières avec lesquelles on travaille sont auditées tous les ans. Et l'auditeur aura accès à toutes les transactions qui auront lieu dans la dernière année.
Je vous redonne une info, les consommateurs sont prêts, on le voit nous à notre niveau avec ces qui patrons, à donner des après-midi, des heures, des journées, si ça sert à quelque chose de sûr, si ça aide un producteur à gagner sa vie, si ça rassure au niveau d'un produit. Donc on peut utiliser ce bénévolat dans la mesure où c'est cadré, bien organisé.
Et puis les consommateurs, ils ont aussi un rôle important à jouer parce que c'est à eux d'utiliser de plus en plus ces fameux QR codes. Hein. Aujourd'hui, oui. Ils ne le font pas énormément. Si on compare à la Chine, par exemple, on est tout petit.
Alors, on a été en Chine.
Est-ce qu'eux le font quasiment quotidiennement?
Oui, alors ils ont le smartphone dans la main, ils payent avec, ils discutent avec, ils vérifient. Il y a un gros problème aussi en Chine de sécurité alimentaire. On est intervenu il y a quelques mois à l'invitation des autorités chinoises pour présenter ce qu'on faisait. On a constaté que tout se faisait via smartphone. C'est en train de venir. Nous, on travaille pour Carrefour depuis 2 ans sur la traçabilité blockchain. On a été à l'initiative avec eux de la traçabilité du poulet d'Auvergne. Et dans les chiffres, il y a peut-être entre 5 et 10 personnes qui scannent le produit. Alors vous me dites que ce n'est pas beaucoup, mais en même temps, ce qu'on espère, c'est au bout d'un moment. C'est un début déjà. Et puis, vous avez des labels rouges, par exemple, qui va vérifier ce qu'il y a derrière ?
C'est compliqué.
Et on compte effectivement sur des consommateurs qui ont plus le temps, qui sont plus experts pour les regarder, scanner, aller regarder et diffuser l'information autour d'eux.
Alors, il faut simplifier l'info, la rendre pédagogique pour qu'elle soit comprise.
Et exactement. On va continuer à en parler de cette traçabilité dans un instant sur Europe 1.
Il est 13h29.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Restez avec nous, on vous attend, 39-21, vous avez la parole, c'est la France qui bouge. Vous pouvez aussi venir ici au Salon de l'Agriculture et poser toutes vos questions à nos invités. A tout de suite.
Jusqu'à 14h, vous écoutez La France bouge avec Raphaël Duchemin et ses invités en direct du Salon de l'Agriculture. Depuis 13h, on parle d'un sujet important de sécurité alimentaire et de la traçabilité de la viande.
Et oui, vous avez raison, c'est un sujet important. On est tous concernés par cette traçabilité. Pour en parler à mes côtés, Nicolas Chaban, fondateur de la marque C'est qui le patron, c'est notre coach aujourd'hui. Benjamin Lévesque, qui m'accompagne toute cette semaine ici au Salon de l'Agriculture. Et puis bien sûr nos invités, Melchior de Warren, cofondateur des Colis du Boucher, Philippe Dumas, éleveur et président du conseil d'administration de Sicarev, le groupe coopératif d'éleveurs, 10 000 adhérents. Et Sylvain Cariou, cofondateur et président de Crystal Chain, solution de blockchain qui travaille notamment avec Carrefour, sur cette fameuse traçabilité. Puis il vient de nous rejoindre parce qu'il a écouté et participé ici dans le studio d'Europe 1 au Salon de l'Agriculture au débat. Jean-Marc Escure qui dirige Limousin Promotion et qui gère notamment le label rouge Limousin. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez entendu le débat, les questions qu'on se pose autour de cette traçabilité. C'est aussi une de vos préoccupations premières, j'imagine.
Bien sûr, et c'est une préoccupation du label rouge. Depuis le départ, le label rouge a été créé aussi pour identifier les produits et pour que le consommateur, derrière un signe, puisse retrouver toute l'origine des produits. Donc en viande, depuis le début des labels rouges, on a cette traçabilité.
Et pourtant, il y a une défiance, y compris des consommateurs, vis-à-vis des labels, des AOC, des AOP, parce qu'on s'aperçoit que parfois, il y a le petit logo et puis il n'y a pas forcément toujours ce qu'on attend derrière.
Alors,
c'est la même chose pour la viande ou pas du tout ?
Moi, je dirais que sur le label rouge, j'ai travaillé en plus, avant d'être à la promotion du bœuf Limousin Label Rouge Blason Prestige, j'étais à l'organisme certificateur. Donc je connais bien la certification. J'ai travaillé pendant 20 ans dans ce domaine. Je vais dire que derrière un label rouge, derrière une IGP, derrière le logo agriculture biologique, il y a un organisme de contrôle indépendant qui vérifie tous les critères du cahier des charges. Donc je pense qu'on peut lui donner il a une crédibilité, il apporte des garanties aux consommateurs.
Comment se fait-il que finalement on ait tous ces éléments à notre disposition et que nous, consommateurs, on ne le sache pas ou pas assez ou qu'on ne sache pas s'en servir ? Sylvain Cariou.
En fait, je le vois. Quand on avait travaillé pour Carrefour il y a 2 ans, on a essayé de récupérer toutes les informations sur le poulet. Et en fait, c'est compliqué parce qu'elles sont disperses, éparses auprès des fournisseurs d'aliments, des éleveurs, des vétérinaires, de l'organisme qui contrôle. Et c'est disponible parce que la traçabilité est obligatoire. Mais en même temps, c'est compliqué de récupérer les informations. Avec une plateforme telle que la nôtre chez Crystal Chain, toutes ces informations qu'il faut peut-être deux semaines à récupérer, on les a en temps réel parce que chacun les a mises à disposition des autres. C'est peut-être ça la difficulté, mais l'amélioration qu'on peut faire sur la traçabilité.
Vous parliez du poulet. Justement, vous êtes allé voir, Benjamin, je crois, poulet de louer pour savoir comment ça fonctionnait.
Voilà, déjà en 1960, chaque poulet avait son numéro de traçabilité. Sauf que pour le consommateur, un numéro, ça ne lui donne pas réellement d'informations sur la provenance du produit. Et donc depuis 3 ans, sur chaque barquette de poulet de la marque louer, on peut y retrouver le nom de l'éleveur et son adresse.
Melchior de Warren, vous en pensez quoi de ce qu'on vient de dire, de cette traçabilité ? Il y a encore des efforts à faire ? On commence à être bon ?
L'information existe, effectivement. En revanche, la problématique des labels rouges, c'est qu'il n'y a pas d'uniformité. En bio, il y a vraiment un cahier des charges commun et un cahier des charges national. En label rouge, c'est un peu le défaut du label rouge, c'est qu'il n'y a pas cette uniformité aussi puissante. On peut retrouver un poulet label rouge en supermarché à 6 euros le kilo. Et une volaille de Bresse label rouge à 22 chez son boucher, bah, le consommateur, il comprend pas.
Oui, c'est pour ça que je disais qu'on était un peu perdu.
Ça dénigre
dans la forêt
le label rouge. Donc,
qu'est-ce que vous en pensez? C'est effectivement un argument.
La volaille de Bresse, ça doit être un AOP, me semble. Donc c'est pas tout à fait le même signe. On est sur un signe de garantie liant au territoire et avec une production différente. C'est vrai par contre que sur une espèce donnée, on va dire en viande bovine, le fonctionnement d'un label rouge, c'est qu'il y a une base nationale qui s'applique à tout le monde et ensuite il peut y avoir des spécificités d'une race à l'autre ou d'une région à l'autre.
Philippe Dumas.
Alors, ces informations sur la traçabilité, elles existent. Je crois qu'aujourd'hui, c'est des aspects réglementaires, c'est des aspects qui sont contrôlés, qui sont vérifiés dans l'ensemble et à toutes les étapes de la transformation. Mais la vraie question aujourd'hui, c'est quoi l'attente du consommateur? Est-ce que le consommateur, quand il achète sa barquette de viande, son steak haché, il veut le nom du producteur, sachant que quand on est dans du steak haché, compte tenu du process de fabrication, il y a forcément les animaux de plusieurs producteurs. Où est-ce qu'il veut savoir comment ça a été produit, quelles ont été les étapes de la fabrication? Et c'est quand même, y compris dans la démarche C'est qui le patron, ce qu'on a fait, c'est d'expliquer que on est en toute transparence sur l'ensemble de la chaîne de valeur et du produit.
Nicolas.
Rapidement, sur le label rouge, c'est un beau label, le label rouge.
Oui.
Mais on ne connaît pas assez ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire, personne ne rentre dans les X dizaines de pages du label rouge. Donc, vous avez peut-être à communiquer des éléments pas trop compliqués, mais qui seraient accrocheurs et pédagogiques.
Je pense que c'est ce qu'on fait régulièrement, peut-être pas assez bien, mais on va continuer, on va s'améliorer.
On peut tous
faire mieux, mais on communique, on explique les valeurs du label rouge. Les valeurs du label rouge, il faut savoir que au départ, c'était la qualité gustative supérieure. Et très longtemps, il faut savoir aussi que les structures nationales, Commission nationale des labels et INAO depuis quelques années, on n'avait pas la possibilité de communiquer sur autre chose. Mais derrière le label rouge, il y a un cahier des charges avec des conditions d'élevage, avec des conditions d'alimentation, avec des densités. Donc tout ça est encadré et certifié par un organisme indépendant. Voilà.
Le mot de la fin, Sylvain Cariou.
Je vais rebondir sur ce que vous disiez. En fait, le problème, c'est que les étiquettes sont petites et si on n'a pas la place de mettre plein de choses. Et en plus, il y a des informations obligatoires.
On va faire des étiquettes plus grosses.
C'est l'intérêt des codes qu'on va scanner. Ça permet de donner énormément plus d'informations sur votre produit et sur sa qualité.
Pour éviter de les donner après les infos, décider des critères avant, c'est le principe de la marque du consommateur. Là, demain, je crois qu'il y a le poulet qui va être créé tous ensemble avec toutes les informations et on choisira la qualité, l'équité, etc.
Oui, mais ça, il faut que ça soit possible aussi pour les autres produits, pas uniquement pour ceux de C'est qui le patron.
On essaiera de faire tous les produits.
Sur tous les produits, que ce soit ceux qui ont le label rouge ou que ce soit ceux que vous vendez d'ailleurs, parce que vous travaillez avec... vous avez votre label aussi, vous vendez aussi...
Le groupe Sicarev est un des principaux opérateurs du label, que ce soit dans le Limousin, dans le Charolais. Oui. C'est aussi la demande de nos éleveurs d'être au plus près du consommateur. C'est pas savoir si le consommateur a acheté sa vache ou pas sa vache, c'est celle et comment elle a été produite, un modèle de production, un système d'élevage à la française. C'est ça qu'on doit aussi expliquer à nos consommateurs pour vraiment mettre en avant l'élevage français.
On voit qu'on a vraiment touché au cœur du sujet avec vous. Merci d'être venu parler de traçabilité de la viande aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h38. Europe 1, Raphaël Duchemin.
Elle porte le nom d'un ruisseau du Poitou, son emblème, une chèvre sur vos fromages. Soignons et l'entreprise qui va bien. Merci.
Sur Europe 1.
Europe 1.
Et la France Bouge se poursuit jusqu'à 14h en direct du Salon de l'Agriculture avec vous, Raphaël Duchemin, et avec une entreprise qui va bien.
Oui, et cette entreprise, eh bien, c'est Soignons. Bonjour Mickaël Lamy.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'organisation Lait de Chèvre de la coopérative agriale dont Soignons fait partie. Soignons qui est une très très vieille marque française. Elle porte le nom, je le disais tout à l'heure, d'une toute petite rivière qui coule dans les Deux-Sèvres, c'est
voilà,
ça
voilà.
Un petit ruisseau même.
Soignons, c'est une jeune dame qui est née en 1895. 80 producteurs se sont rassemblés près de Saint-Mexant-l'École pour créer une coopérative fromagère tout près d'un petit ruisseau qui s'appelait Soignons, ce qui a donné le nom à la fromagerie et à la marque qui...
Non, on va vous mettre juste en face du micro, on vous entendra mieux, parce que c'est vrai que vous avez vu, il y a la fanfare qui joue pour nous, c'est formidable. Alors, vous le disiez, 1895, et des producteurs qui se regroupent pour collecter le lait. Au départ, il n'y a pas de grand monde, il y a une dizaine de producteurs.
Non, et puis progressivement, au fil des ans, la coopérative s'est agrandie, s'est développée, avec un point un renouveau qui est pas si lointain, qui date des années 90, hein, où à l'époque, la coopérative et la fromagerie Soignon étaient en proie à d'énormes difficultés. Et là, deux personnes visionnaires, on peut saluer, Guy Magret, le président de la coopérative à l'époque, et Olivier Prételin, le jeune directeur qui venait d'arriver à l'époque, ils ont perçu, au fond de la crise, qu'au travers Soignon, au travers la filiale Caprine, il y avait un potentiel de développement important pour ces coopérateurs, pour ces producteurs, et pas à pas, marche après marche, en investissant, en modernisant la fromagerie, en communiquant.
Montant en gamme aussi.
En montant en gamme.
En redorant l'image.
En améliorant la qualité des produits, en élargissant la gamme, en communiquant pour faire connaître nos produits. Et bien, d'une coopérative et d'une fromagerie qui était en perdition, mais aujourd'hui on en est un fleuron, avec un fromage sur trois de chèvre consommé en France, qui est un fromage Soignon, quasiment un Français sur deux. Donc une très très belle histoire, une grande fierté.
Et ce sont 600 producteurs qui travaillent avec vous aujourd'hui. Vous êtes devenu en 25 ans le leader, on peut
le
dire.
Le leader
du fromage de chèvre en France. Faut dire qu'on a, je crois, quelque chose comme un peu plus d'un million de têtes dans le cheptel français, c'est ça ?
Oui, voilà, c'est ça.
On a 9,5% du cheptel européen, c'est-à-dire qu'on est quatrième derrière la Grèce, derrière l'Espagne, derrière la Roumanie.
Sachant que
mais on est leader.
On est leader
sur la production de lait.
La particularité, voilà, c'est que nous, en France, nous élevons les chèvres pour produire du lait, pour produire du fromage, ce qui n'est pas le cas, notamment en Grèce ou dans de nombreux autres pays où on élève les chèvres pour produire de la viande.
On a plus de 600 millions de litres, c'est ça ?
Plus de 600 millions de litres de lait collecté en France et transformé.
Alors, vous avez sauté des étapes tout à l'heure, parce que moi, ce qui m'a bluffé, c'est qu'en 1932, c'est Soignon qui invente la fameuse...
La fameuse bûche de chèvre, oui.
Comment vient cette idée ?
C'est une tradition quand même locale dans le Poitou-Charentes.
Oui.
Et puis... Il y avait une tradition beurrière aussi à l'époque, donc des équipements qui permettaient de produire, de fabriquer des formats de type bûche.
Oui, parce que le beurre à l'époque, il était effectivement de cette forme-là et pas rectangulaire.
La région
comme on l'a
Poitou-Charentes étant connue aussi pour le beurre, des gens visionnaires ont eu l'idée de produire des bûches qui ont permis de démocratiser en quelque sorte la consommation de fromage de chèvre en France.
Nicolas Chabanne, le coach.
Alors, on en a parlé aussi ensemble avant le début de l'émission. C'est une coopérative.
Hein, voilà.
Et pendant des années, ces coopératives, donc qui sont formées et constituées d'éleveurs, ont un peu joué, tout le monde le reconnaît, aux grandes marques. C'est-à-dire que c'était devenu, à l'instar de marques moins coopératives, des gros bateaux qui n'avaient pas forcément le réflexe de rappeler qu'ils étaient une coopérative d'éleveurs. Aujourd'hui, c'est une énorme demande des consommateurs. Comment vous faites, en étant comme ça une coopérative importante, pour rappeler que ce sont les éleveurs qui font le produit qu'on est en train de consommer ?
Déjà, on est présent au Salon de l'agriculture, justement, pour communier avec les consommateurs, pour être à leur écoute. On est obligé d'être à l'écoute des consommateurs. C'est pas à vous que j'allais apprendre. Le patron, c'est le consommateur. On ne peut fabriquer que ce qui se vend, que ce que ce consommateur vaut. Donc on est à l'écoute. Deux exemples. Nous venons de sortir des nouvelles bûchettes de chèvre pour l'apéritif. On a sorti le fromage de chèvre du plateau.
Et ça, on vous l'a demandé.
Et c'est les consommateurs qui nous ont dit, ben voilà, nous, on souhaiterait tel parfum. Un deuxième exemple, on est très présent sur les réseaux sociaux. Et régulièrement, des consommateurs nous interpellaient. On a un petit fromage fouetté avec une cartonnette. Pourquoi cette cartonnette ? Et bien, cette année, suite à ces remontées des consommateurs, envoie la cartonnette. C'est meilleur pour l'environnement. Ça fait des économies pour la coopérative. Et quelque part, un euro économisé pour la coopérative, c'est un euro de plus qu'on peut redistribuer aux producteurs. Donc tout le monde est gagnant.
Vous êtes sûr de vendre le produit parce que le consommateur vous a dit qu'il allait l'acheter.
Ouais. Voilà.
Dites-moi, aujourd'hui, vous avez 1200 salariés, c'est ça ?
On a 1200 salariés dans nos fromageries Caprine. Oui.
Le vrai problème de la filière, le vrai problème que vous rencontrez, c'est celui évidemment des producteurs qui partent à la retraite.
Voilà.
L'ambition, et vous les aidez pour ça, c'est
le défi...
de créer de nouveaux producteurs, de les faire venir.
Voilà, une centaine. L'objectif, c'est de créer d'attirer une centaine de nouveaux producteurs sous 5 ans, donc une vingtaine par an, à la fois pour renouveler les producteurs qui partent en retraite, mais aussi, le Soignon étant très dynamique, nos ventes augmentant tous les ans, on va pouvoir avoir des volumes de lait additionnels pour pouvoir répondre aux demandes des consommateurs. Donc il y a tout un plan d'accompagnement qui est prévu pour accompagner les jeunes, des aides, des suivis techniques, des financements, etc.
Et puis c'est une filière qui va bien parce que le prix du lait est en hausse, la collecte...
Le prix du lait est en hausse, croissance des volumes est en adéquation avec le marché. Et on a une consommation de fromage, que ce soit à tous les moments de la journée, à l'apéritif, en cuisine, en dessert avec les yaourts, qui est en hausse. Et dans une filière, lorsque la consommation augmente, eh ben, c'est beaucoup plus facile de créer de la valeur et de la retourner
aux producteurs. Vous exportez beaucoup, pardon ?
Nous exportons aussi environ un tiers de nos fabrications.
Mais vous essentiellement, faites 50 000 tonnes, c'est ça, par an ?
50 000 tonnes, oui. Donc le 40% environ sur le marché français, les grandes et moyennes surfaces. Et puis après, environ 30% à l'exportation, les pays limitrophes essentiellement, l'Allemagne, Bélénux, le Royaume-Uni. Et puis nous avons aussi une activité intéressante en restauration hors domicile. Vous mangez certainement des pizzas, Raphaël. Oui. Et ben, les pizzas au chèvre, il y a de fortes chances que le chèvre provienne des fromageries Soignon, par exemple. Et cette consommation... Ces nouveaux moments de consommation, ces nouveaux modes de consommation se développant, ben on se doit d'accompagner les membres des clients.
C'est Soignon et c'est l'entreprise qui va bien. Merci Mickaël Lamy d'être venu nous en parler aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h50.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Au 1er janvier prochain, les pailles en plastique seront interdites. Pour les remplacer, des agriculteurs ont imaginé un équivalent, mais en paille, c'est la solution. A tout de suite.
La France bouge, est au Salon de l'agriculture toute cette semaine sur Europe 1. On vous retrouve, Raphaël Duchemin, pour la dernière partie déjà de cette émission avec une solution.
Et oui, on va essayer de trouver une alternative à la paille en plastique. Vous savez, c'est possible et en plus, c'est Made in France. Deux associations ont eu l'idée de fabriquer, Benjamin, une paille en paille.
Et oui, l'un est agriculteur en Normandie, l'autre designer à Paris. Ils ne se connaissaient pas il y a un an, mais tous deux avaient envie de se lancer dans la protection de l'environnement. Alors il faut savoir qu'en France, plus de 3 milliards de pailles en plastique sont utilisées et jetées chaque année. C'est un désastre écologique, puisqu'elles mettent 450 ans à se détruire. On les retrouve très souvent d'ailleurs dans nos océans. Et à ce jour, il n'y avait pas d'alternative sérieuse, puisque les pailles en verre, c'est pas pratique. Celles en bambou, elles proviennent d'Indonésie. Et celles en carton, ramoulissent trop rapidement dans nos verres. Et ensemble, ils ont développé une nouvelle idée écologique et unique.
Et ils sont avec nous, Jeff Lubrano et Mike Salard. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Raphaël. Bonjour.
Merci d'être avec nous. Dites-moi, cette prise de conscience chez vous, elle démarre quand ? Qui veut répondre ?
En fait, on est un peu tous les deux passionnés de sport de glisse, déjà, donc ça nous fait un point commun. Ouais. Et c'est en allant, par exemple, à la montagne ou à la mer qu'on a vu l'ampleur de la pollution plastique. Donc on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et un jour, l'année dernière, Jeff vient me voir à la ferme et avec sa super idée de faire des pailles naturelles. J'ai accroché direct, lui avait l'idée et moi j'avais la matière première en fait. Donc c'est parti de là et on s'est lancé.
Benjamin.
Et pourquoi cette paille de seigle ? Pourquoi pas autre chose ?
On a fait plusieurs essais avec les différentes variétés de céréales que je produis sur la ferme. Et c'est le seigle qui était le plus adapté à ce qu'on voulait faire en fait, au niveau de la taille des segments. Et de la solidité aussi de la matière.
Alors elle est là, cette paille en paille. Hein. Elle a un nom d'ailleurs.
Elle s'appelle La Perche.
C'est ça.
Pourquoi ?
Elle s'appelle La Perche parce qu'elle est produite dans le Perche et que face à la pollution plastique, on tend une alternative, donc on tend La Perche. C'est une alternative au plastique. Notre combat, il est vraiment là. Il est vraiment de travailler à apporter une solution concrète, comme vous l'avez dit Raphaël, à la pollution plastique. C'est 9 millions de pailles par jour en plastique qui sont utilisées en France.
Et si je veux l'acheter, je vais où est-ce que je peux l'acheter ?
Alors pour l'instant, on l'achète pas, on la regarde sur Europe 1.
Oui, oui, elle est avec nous. Nous, on l'a en tout cas.
Et on a semé, donc comme tous les agriculteurs qui font des céréales, on a semé en octobre dernier. Et là, aujourd'hui, ça pousse. Et donc, à la moisson, fin juin, début juillet, on va pouvoir récolter à la fois la céréale, puisque faut bien comprendre que la paille est un coproduit de l'agriculture. On ne plante pas du seigle pour faire nos pailles. On plante du seigle pour la céréale, pour le seigle. Nous, on récupère ensuite les tiges. Et plutôt que de faire passer une moissonneuse, on travaille à la main et on récupère ces tiges et on les façonne pour pouvoir faire des pailles à boire.
Que dit notre coach ?
Une très grande idée, je la tiens dans ma main. Je me rends compte qu'on a peut-être déjà tous eu cette paille un peu rigide qu'on va trouver dans la nature. Une seule question, parce que je suis prêt à vous aider à vous faire rencontrer tous les gens que je connais pour que cette paille puisse se retrouver dans un maximum d'endroits. Qu'est-ce que ça va coûter en plus d'utiliser cette paille ? À votre avis, je pense que vous êtes encore dans l'étude. par rapport à une paille normale?
Ben, les pailles normales n'existent plus, puisque concrètement, moi, ce que je veux et ce que je voudrais, c'est que le plus de gens possible arrêtent de boire avec des pailles plastiques. Donc,
je voulais dire plastique, pas normal.
Ouais, plastique. Une paille plastique, on ne pourra jamais lutter, surtout avec le vivant, pour essayer de faire moins cher. Il faut qu'on fasse mieux aujourd'hui. La paille plastique a un coût qui est dérisoire. Nous, on va pouvoir mettre sur le marché pour à peu près 8 euros TTC, prix public, sans paille.
Mais on ne peut pas la garder avec nous ?
Moi, j'en ai une que je garde parce qu'on fait des tests en ce moment. Ça fait 3 semaines qu'elle passe dans le café, dans le coca, dans le lave-vaisselle et elle résiste très bien.
Ah, le lave-vaisselle, c'était ma question de ménagère.
Oui, ça résiste parce que c'est du seigle, c'est rigide. Il n'y a aucun traitement. La paille est bio, d'origine bio. Il n'y a aucun traitement. On la lave avec de l'eau stérilisée et ensuite on la fait sécher. Elle est telle qu'elle, elle est naturelle.
Non, mais vraiment, si ça coûtait même 5 euros, 10 euros par an de plus pour un consommateur, vous ne devez pas discuter uniquement avec celui qui va un peu en schizophrénie, se dire « Oh là là, ça va être trop cher, les gens n'achèteront pas ». Demandez-le aux consommateurs.
Absolument.
Qu'ils soient derrière vous pour que cette paille se retrouve partout.
Merci.
Benjamin.
Et l'objectif, c'est aussi zéro déchet pour le producteur ?
Complètement, oui.
Mike.
Alors déjà, la paille, nous, on l'utilise pour litière pour les animaux. Donc à la base, c'est un déchet de moisson. Ouais. Et ce qu'on veut faire en travaillant la paille, justement, on aura des déchets. Après, on veut essayer de justement revaloriser ces déchets-là. Et on commence à réfléchir un peu là-dessus.
Ouais, c'est un cercle vertueux.
C'est ça, ouais. Donc, tout utilisé en fait dans le produit.
Et le projet sur lequel on travaille d'arrache-pied aujourd'hui, c'est d'utiliser ces chutes de paille pour en faire du packaging qui soit à la fois du packaging évidemment bio, mais qui soit du packaging biodégradable et surtout compatible avec l'alimentaire. Ce qui est le gros challenge des 10 années à venir, c'est d'avoir des packagings qui soient compatibles alimentaires. L'intérêt de notre paille, très rapidement pour finir, c'est que effectivement, si la meilleure de ses destinées, c'est d'aller au compost, puisqu'elle retournera à la terre. Mais si jamais vous la mettez dans une poubelle et qu'on la jette, elle se biodégrade naturellement quand elle arrive dans une déchetterie.
Elle va pas mettre plusieurs centaines d'années.
Non.
Je vous annonce le plus grand succès.
On a hâte de la voir. Hein.
Merci Raphaël.
Voir l'acheter. Ouais, on a hâte de la voir très très vite dans les magasins. Merci en tout cas d'être venu nous présenter la perche.
Merci.
La paille en paille. Merci à tous d'avoir été avec nous. Nicolas, on se dit à bientôt.
Ah, le plus tôt possible.
Et nous demain, on se retrouve demain. Ici au Salon de l'Agriculture. On va parler de ceux qui défendent justement, vous savez, tous les produits du terroir qu'on oublie un peu, le camembert, enfin toutes ces choses qu'il faut défendre parce que c'est français. Alors on vous dit à demain ici au salon.